Monsieur Jamy, aujourd'hui nous sommes le 10 mai. Nous fêtons Saint Jean d'Avila. Saint Jean d'Avila naquit à Almodovar del Campo, près de Tolède, le 6 janvier 1499. Attention, il n'a aucune parenté avec Sainte Thérèse d'Avila. Jean était le fils d'Antoine Avila et de Catherine Xixona, probablement d'origine juive. Son père, Antoine, de famille noble, était un riche marchand. On ne connaît à peu près rien de son enfance, jusqu'en 1514, où il partit pour l'université de Salamanque préparer une carrière de lettres. À cette époque, étudier les lettres signifiait aussi étudier les arts, le droit, la philosophie et même la théologie. Jean d'Avila, diplômé en droit, aurait pu devenir un riche serviteur de l'État. Mais il préféra se tourner vers le sacerdoce et il rejoignit rapidement l'université d'Alcala de Henares où il se spécialisa en philosophie et en théologie. Il fut ordonné prêtre en 1525 et célébra sa première messe dans l'église où avaient été enterrés ses parents, décédés pendant qu'il faisait ses études. Il distribua sa part d'héritage aux pauvres. Pour bien comprendre la vie de Jean d'Avila, il faut revoir un peu l'histoire de l'Espagne à cette époque. Ce XVIe siècle bouillonnait d'idées, de désirs de renouvellement, de rêves et d'ambitions impériales qui incitaient les Espagnols à aller toujours plus haut, toujours plus loin. L'Espagne devait, coûte que coûte, conquérir le monde. Par ailleurs, nous savons qu'en 1517, un moine allemand, Luther, avait rompu avec Rome et prêché un nouveau christianisme qui sera appelé le luthéranisme. Par contagion, beaucoup d'Espagnols cherchaient à repenser la foi de l'Évangile. Mais l'Inquisition veillait, et nous savons que le protestantisme ne pénétrera jamais dans la péninsule ibérique. Tant certaines mystiques douteuses, l'illuminisme des Alumbrados ou le quiétisme des Derrados, entre autres, étaient attaqués par l'Inquisition. Dès 1525, l'édit inquisitorial de Tolède condamnait 48 propositions estimées, à juste titre, comme hérétiques. Jean d'Avila, ancien étudiant d'Alcala, avait inévitablement connu ces familles spirituelles pour lesquelles le recueillement, le détachement, la découverte de Dieu dans l'oraison mentale, la charité et la pauvreté étaient les maîtres mots. Un autre courant de pensée, l'érasmisme, doctrine du néerlandais Erasme, s'était répandu chez les grands spirituels d'Espagne. Mais cette doctrine était en grand honneur jusque chez le grand inquisiteur et avait pénétré l'université d'Alcala où Jean d'Avila étudiait. Vers 1527-1528, Jean d'Avila songeait à partir en Amérique comme missionnaire. En effet, en 1527, Séville attendait le départ de hardis navigateurs du Christ. Mais les qualités d'orateur de Jean d'Avila furent signalées à l'évêque de Séville, qui le chargea d'organiser des missions populaires dans toute l'Andalousie pour y raviver la foi. Malheureusement, en 1531, Jean d'Avila fut dénoncé au tribunal de l'Inquisition. On l'accusait d'illuminisme et même de luthéranisme. Il fut emprisonné à Séville en 1532, mais pendant l'été 1533, il fut libéré et absous. Que s'était-il passé? Rien de bien grave. Et le procès montrera qu'en réalité, il ne s'agissait que de quelques mots mal compris et de rudes sévérités contre les riches. Incontestablement, Jean heurtait les préjugés d'alors quand il blâmait la haine ou le mépris que tel de ses pénitents confessait avoir pour les Juifs ou qu'il mettait les fidèles en garde contre les révélations ou les prodiges trop facilement acceptés. Jean d'Avila fut également chargé, le 17 mai 1538, de prononcer le sermon à l'occasion des funérailles de la reine Isabelle de Portugal, épouse de Charles Quint. Jean d'Avila était un ami de saint Ignace de Loyola. Aussi favorisa-t-il le développement et la diffusion des jésuites en Espagne. Il soutint également sainte Thérèse d'Avila dans son œuvre de réforme de l'ordre des Carmélites, ainsi que saint Jean de Dieu pour la fondation de l'ordre hospitalier de saint Jean de Dieu. Sa carrière de prédicateur, qui sera presque toute sa vie, ne l'empêchera pas de réaliser des fondations originales afin de poursuivre l'œuvre de conversion commencée par sa parole. En particulier, il fonda de nombreux collèges et participa au Concile de Trente. En effet, en novembre 1544, la paix ayant été signée entre le roi de France et l'empereur Charles Quint, le pape Paul VI convoqua à Trente, dans les Alpes du nord-est de l'Italie, un concile général auquel l'Église songeait depuis longtemps. Au début, l'empereur ne voulant au concile qu'un nombre restreint d'évêques espagnols, Jean d'Avila n'y participa pas, mais il jouera en coulisses un rôle très important par les précieux conseils qu'il donnera. En effet, l'œuvre de Jean était un exemple concret pour réaliser la réforme de l'Église. Le pape Paul III en était très conscient, lui qui, le 14 mars 1538, avait érigé canoniquement le collège fondé à Baeza par Jean d'Avila. La semence des futurs séminaires tridentins était déjà bien préparée. Jean d'Avila jouera un rôle plus direct dans les secondes et troisièmes sessions du concile, comme conseiller d'un grand prélat espagnol, son ancien condisciple d'Alcala, l'archevêque de Grenade. Don Pedro Guerrera, en effet, désirait vivement être conseillé par un grand théologien, ce qui était le cas de son ami Jean d'Avila. En 1551, Jules III, successeur de Paul III, ouvrit la seconde session conciliaire. Avila fournit à l'archevêque un mémoire et un appendice d'une importance capitale, documents qui seront en partie incorporés aux décisions conciliaires. En outre, peu de temps après la fin de la troisième session du concile, en 1563, Avila rédigea pour un autre prélat réformateur, Cristobal de Rojas, évêque de Cordoue, des observations qui compléteront les décisions conciliaires lors du synode provincial tenu à Tolède en 1565. Peu de personnes connaissent l'importance que les conseils de Saint Jean d'Avila ont apporté à ce que l'on a appelé la contre-réforme catholique. L'Espagne lui doit la réalisation des séminaires dits conciliaires, et les séminaires français de Saint-Sulpice et de Saint-Lazare s'en sont très certainement inspirés. Malgré les grandes activités théologiques, Jean d'Avila voulait développer l'œuvre qu'il avait fondée et lui donner le cadre qui lui permettrait de survivre après sa mort. Cependant, une autre compagnie s'était fondée postérieurement à la sienne, la milice d'Ignace de Loyola. Jean aurait souhaité rassembler les deux compagnies en une seule. Une sympathie mutuelle poussait les deux familles spirituelles l'une vers l'autre. Malheureusement, cela ne put se faire. De 1555 à 1559, Jean d'Avila, presque aveugle, était de plus en plus malade. Cependant, il poursuivait son rôle d'animateur et de conseiller des prêtres et des âmes religieuses. Il mourut saintement le 10 mai 1569 à Montilla. Le pape Léon XIII le béatifia le 6 avril 1894. Il fut canonisé le 31 mai 1970 par le pape Paul VI, et proclamé docteur de l'Église le 7 octobre 2012 par le pape Benoît XVI. Penchons-nous maintenant sur l'œuvre théologique de Saint Jean d'Avila. L'Église du XVIe siècle vivait de nombreux drames. Chrétienté attaquée à ses frontières, pasteurs non formés à leur tâche pastorale et négligents dans l'exercice des fonctions sacrées, depuis les simples prêtres jusqu'aux évêques et archevêques, d'où il résultait, pour les fidèles, une grave ignorance religieuse. À cela s'ajoutaient de mauvaises interprétations de l'Écriture et une prédication insuffisante. Jean d'Avila, après avoir minutieusement étudié la réalité et avoir détecté les causes de la décadence du clergé, proposa les remèdes les plus adaptés. Études attentives de la vocation cléricale et religieuse, formation des séminaristes et des futurs apôtres, éducateurs, prédicateurs, exégètes et théologiens. Tout cela, Jean d'Avila l'avait déjà mis en œuvre dans les séminaires de sa compagnie. Bien qu'elles soient encore peu connues en France, les œuvres de Jean d'Avila furent nombreuses. Tout d'abord, ses sermons. Depuis le XVIIe siècle, on en connaissait déjà 82 et 18 allocutions spirituelles auxquelles s'ajoutèrent en 1947 les textes de 24 sermons retrouvés dans les archives de Loyola dans la province de Burgos. Jean d'Avila rédigea aussi de très nombreuses lettres adressées à des prêtres et à des laïcs, lettres qui nous permettent d'apprécier la qualité de son enseignement. Par ailleurs, au moins 43 de ses traités théologiques nous sont connus, dont le traité sur le très saint sacrement. Ces traités furent diffusés dans toute l'Europe, surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Signalons également la parution en 1556 d'un petit livre intitulé « Audi Filia, écoute ma fille », présenté par Jean d'Avila lui-même comme des avis et règles chrétiennes pour ceux qui désirent servir Dieu. Nous allons maintenant essayer de vous présenter les thèmes traités par Jean d'Avila. Un spécialiste des œuvres de Jean d'Avila, Robert Ricard, a écrit « Ce que l'on voit bien, c'est la véhémence du zèle et la profondeur de la foi. Ce que l'on sent bien, c'est l'ardeur brûlante de l'amour de Dieu et des âmes. » Nous commencerons par le corps mystique du Christ. Jean d'Avila reprend souvent la doctrine du corps mystique exposée par saint Paul, qui la tenait, comme tout son enseignement, de Jésus lui-même. Nous savons que Jésus est la tête du corps mystique et que nous en sommes les membres. Pour Jean d'Avila, il existe une véritable solidarité entre Jésus, la tête du corps, et chacun des membres. Cette solidarité de volonté est doublée d'un effort continuel auquel la grâce ne fait jamais défaut. Il en résulte que toute infirmité, toute mutilation des membres retentit sur l'ensemble du corps, particulièrement sur la tête elle-même, le Christ qui a tant souffert pour nous et dont la passion n'est jamais achevée, puisqu'il ne cessera jamais de lui manquer ce que nous ne pouvons accomplir. Et maintenant, le rôle du Saint-Esprit. Pour saint Jean d'Avila, le Saint-Esprit, c'est l'âme du corps mystique. C'est le moteur spirituel de cette société des âmes sauvées ou à sauver. De même que dans un corps, il n'y a qu'un seul esprit qui se répand dans tous les membres, tous les hommes vivent une vie humaine et non pas l'un une vie d'homme et l'autre une vie de lion ou d'un autre animal. Tous ceux qui sont incorporés au Christ vivent de l'esprit du Christ, comme le sarment vit de la vigne et les membres du corps de la tête. Mais dans l'ordonnance du corps mystique, quel rôle joue l'Esprit Saint? Ici, la pensée de Jean d'Avila se fait particulièrement forte. Alors qu'il préparait une fête de la Pentecôte, Jean d'Avila affirma « Comme c'est l'Esprit qui anime tout le corps mystique, la charité pour nos frères souffrants est la meilleure préparation à sa venue, le meilleur repas que nous puissions lui offrir. » Alors, le Consolateur nous redonnera Jésus, dont la mystérieuse présence se fera sentir en nous, comme à la mère celle de l'enfant enfermé dans son sein. Il faut préparer soigneusement la demeure de celui qui va venir et que Jésus lui-même nous envoie. Car si on ne le désire pas, il ne vient pas. Si la demeure n'est pas digne de lui, il n'y pourrait descendre. Le 29 mai 1552, toujours pendant une période de Pentecôte, Jean d'Avila prêcha sur ce même thème, pas assez compris de la masse des chrétiens. Le prédicateur voudrait amener ses auditeurs à désirer vivement l'Esprit du Christ, car qui ne l'a pas n'est pas du Christ. D'ailleurs, notre propre esprit ne peut de lui-même plaire à Dieu. Pour que l'Esprit vienne, il faut écouter la parole de Dieu et la recevoir en esprit de pénitence. « Purifions-nous donc, écrit Jean d'Avila, afin de recevoir le paraclet qui, semblable à une colombe, nous révélera l'apparition, le visible Esprit Saint du baptême de Jésus. » Jean d'Avila suggère « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Est-il venu vers vous, semblable consolation? L'habitation de la Trinité Sainte en nous, par les soins du Saint-Esprit, vaut toutes les consolations humaines. Les œuvres produites alors sont admirables, guérison, allégresse, force, courage, résurrection si c'est nécessaire. Quelle plénitude de dons! Plus tard, Jean d'Avila montrera à ses auditeurs les morts innombrables que sont les hommes en Adam et précisera « Seule la loi de l'Évangile est venue nous annoncer notre réveil par la souffrance, la mort et la résurrection du divin Rédempteur. Mais la Pentecôte complète l'œuvre rédemptrice. L'Esprit est Dieu et il nous divinise. Malheureux qui ne croirait pas au divin pardon. Jean d'Avila ne condamne pas les pécheurs, il les exhorte à la joie et à l'action, comme les apôtres qui, au sortir du Cénacle, après avoir reçu le Saint-Esprit, partirent à travers le monde prêcher le salut. Oui, Dieu sauve le monde par l'Esprit-Saint. Jean d'Avila se réfère souvent à la Trinité. Certes, le centre de sa doctrine, c'est le Christ. Mais c'est par le Christ que nous remontons au Père commun. C'est également du Christ que nous recevons l'Esprit, qui est à la fois le sien et celui du Père. Il en résulte que l'âme croyante, fermement attachée au Christ, Verbe incarné, est une demeure où les trois personnes de la Trinité prennent plaisir à se reposer. Un temple que l'on nomme à juste titre le temple du Saint-Esprit. Voyons maintenant les dons et les vertus infuses. Les hommes sont rachetés et sauvés par l'Esprit-Saint. Grâce à ces dons et aux vertus qu'il infuse en eux, les hommes sont invités à partir sur la route des grandes réalisations, non pas seuls comme des orgueilleux, mais avec le guide qui nous est donné et par qui tout devient possible à notre chair régénérée.